Bonjour à toutes et à tous, c'est Lionel Camille. Alors je souhaitais revenir sur l'affaire Nora Quara, dont j'ai déjà parlé, une affaire qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que les parents de Nora, Sébastien et Mehab, ont récemment fait savoir qu'ils réclamaient une enquête sur la mort de leur fille, retrouvée dans la jungle malaisienne. Ils contestent la décision des autorités qui ont classé l'affaire sans suite. Ils ont fait savoir, par le biais de leur avocat, qu'ils se battront pour connaître la vérité. J'ai souhaité faire cette nouvelle vidéo pour étudier la piste que j'ai appelée la piste du chaman, très importante selon moi. Donc, je ne vais pas réexpliquer avant toute l'affaire, je vous renvoie vers les émissions que j'ai déjà faites sur Nura TV et aussi la mini-émission résumée. Je suis quand même obligé de faire quelques rappels pour vous rafraîchir la mémoire et aussi pour ceux qui n'ont pas vu ces émissions. Donc, pour récapituler, début août 2019, Nora, une adolescente franco-irlandaise, qui passait des vacances avec sa famille en Malaisie, dans un bungalow à côté de la jungle, a disparu une nuit, dans des circonstances inexpliquées. On a juste retrouvé le lendemain matin une porte-fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Nora dormait avec son frère et sa sœur dans une chambre à l'étage. Sa disparition a donné lieu à une opération de recherche massive. Donc pendant 10 jours, on a cherché cet enfant. On l'a retrouvé décédé malheureusement 10 jours plus tard, près d'une cascade à 2,5 km dans un lieu inaccessible. Nora souffrait d'un handicap intellectuel et légèrement moteur. Il fallait traverser au moins deux ruisseaux et grimper des pentes boueuses. Le site était très difficile d'accès. Il y a aussi énormément de zones d'ombre dans cette affaire. D'abord, la police a exclu la piste criminelle parce qu'elle n'a constaté aucun signe d'intrusion dans le bungalow. En clair, personne n'est venu de l'extérieur pour enlever Nora. Autre point bizarre, Nora a été trouvée dans un lieu qui avait été déjà fouillé précédemment par les secours. Donc Nora, elle est décédée de faim, de stress, donc elle a d'une mort apparemment naturelle. Aucun signe d'agression, de violence ou d'agression sexuelle. Quand on l'a trouvée, elle était décédée depuis 2 ou 3 jours. Ça signifie qu'elle est restée donc en vie pendant presque une semaine dans la jungle. Donc c'est complètement fou, hein. C'est complètement aberrant de se demander comment les secours ont pu la louper pendant tout ce temps. Près de 350 personnes, des hélicoptères équipés d'équipements thermiques, des chiens renifleurs, des drones, etc. On a du mal à croire qu'elle était tout ce temps-là perdue, en train d'errer dans la jungle, parce que je pense qu'on l'aurait repérée. Voilà. Comme l'a dit très justement son grand-père, pour résumer, c'est un mystère incompréhensible. Donc maintenant, je voudrais analyser une piste très importante selon moi, sous-estimée, celle du chaman. J'ai découvert au cours de mes recherches une information qui était passée inaperçue, qui est assez troublante, que je vais rappeler maintenant. Donc au cœur de l'affaire, pendant les recherches et avant qu'on ne retrouve Nora dans la jungle, un chaman est venu sur place pour aider les recherches. Un chaman, c'est un être humain qui se présente comme un intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits, les esprits de la nature. En Malaisie, on appelle les chamans des Bomo. Et dans ce pays, on fait très souvent appel aux chamans dans les affaires de disparition dans la nature, comme ça. On considère qu'ils ont le pouvoir de convoquer les esprits et de leur demander de l'aide pour retrouver ces personnes. C'est extrêmement courant parce que j'ai étudié plusieurs affaires là-bas et les Bomo sont souvent sollicités par la police, par les autorités. C'est un peu comme la police américaine, vous savez, qui font appel à des médiums des fois pour aider les enquêtes. Là-bas, c'est pareil, avec les chamans. Donc, dans l'affaire de Nora, la police a fait venir un chaman nommé Khalid Mohamed, pour qu'il apporte son aide. Cet homme a été convoqué par la police, c'est quand même un détail important aussi. Il n'est pas venu de sa propre initiative, apparemment. Enfin, c'est ce qui a été marqué dans les articles de presse. Donc, ce chaman est allé dans la jungle. Là, il est entré en transe. Il a pratiqué des incantations rituelles et serait rentré en contact avec les esprits de la forêt. Donc, dans un article de Paris Match que j'ai trouvé, j'ai noté un paragraphe contenant des informations très importantes. Dans cet article, il est indiqué que ce chaman a déclaré que Nora aurait été piégée par un génie, un esprit invisible qui influencerait la Terre en apparaissant sous forme humaine ou animale. Ce que le chaman a décrit, c'est ce qu'on appelle un djinn. Les djinns sont des entités surnaturelles décrites dans le Coran. Certains seraient bons, d'autres malveillants. Ils pourraient changer de forme et prendre l'apparence d'un homme, d'un animal, d'un arbre. Et ils vivraient dans des lieux déserts, comme les grottes par exemple, ou les forêts. Que le chaman ait fait allusion à une entité ressemblant à un djinn, c'est cohérent et c'est logique en Malaisie, parce que la Malaisie, c'est un pays majoritairement musulman. Donc, dans l'article, il était aussi indiqué que le chaman a déclaré que l'adolescente aurait été choisie par cet esprit pour devenir sa belle-fille à cause de son handicap. Donc là, ça va aller un peu loin pour les plus cartésiens d'entre vous, mais en me renseignant, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que, apparemment, les mariages entre les djinns et les êtres humains seraient possibles, ou du moins certains y croient. Il y aurait des familles de djinns, des djinns masculins, des djinns féminins. Donc il ne m'appartient pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ce sont des croyances, et elles méritent d'être respectées. Comme toutes les religions. Voilà. Pour en finir avec le rappel des faits, et là c'est une information très importante que personne apparemment n'a relevée avant moi, dans l'article de Paris Match, qui avait été écrit le vendredi 16 août 2019, il était indiqué que le lundi, le chaman a dit: ce soir, je vais demander à l'esprit de la ramener de là où elle vient. Il va vouloir quelque chose en échange, a-t-il dit en parlant de l'esprit. Cela restera entre lui et moi. Le plus important, c'est que l'enfant soit libéré, a déclaré le chaman. Donc le chaman, il a fait des rituels le lundi soir, comme annoncé, pour que le génie ramène Nora. C'est écrit noir sur blanc. Or, le lundi soir, c'était le lundi 12 août. Le 12 août au soir. Et la petite Nora a été retrouvée le mardi 13, le lendemain. C'est une information que j'ai trouvée assez étonnante, assez perturbante. Nora a été introuvable depuis 10 jours. Le chaman est arrivé, il a dit qu'il allait demander à l'esprit de la ramener et on l'a retrouvé le lendemain. Toutes les informations étaient pourtant sorties dans la presse, hein, mais personne n'a tilté, hein, personne n'a fait la connexion. Aucun journaliste ne s'est fait la réflexion que le chaman avait annoncé le retour de Nora la veille. Donc désolé pour ce rappel des faits, peut-être un peu long, mais pour moi c'était très important de bien vous remémorer tous ces éléments pour que vous puissiez bien appréhender la suite. On va maintenant analyser ce que j'ai appelé la piste du chaman. J'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Donc on va essayer d'étudier toutes les hypothèses, les cartésiennes et aussi l'hypothèse paranormale. Donc j'ai noté quatre hypothèses. Première hypothèse, ce chaman est un brave homme, mais il n'a aucun pouvoir. Donc en fait, il profite de la crédulité des gens là-bas, des superstitions locales. Il fait ça pour vivre, pour manger quoi. Il ne fait mal à personne, mais il n'a pas plus de dons que vous et moi. En fait, là, donc, quand on lui demande de venir aider les recherches, bah, il joue la comédie, il fait son cinéma dans la jungle, voilà. Il fait semblant d'entrer en transe. Le lundi soir, il annonce qu'il va demander à un prétendu esprit de ramener Nora. Et par un pur hasard, c'est un pur hasard, on la retrouve le lendemain. Le chaman n'y est pour rien, il a juste eu un gros coup de bol. C'est une pure coïncidence. Il a fait cette prédiction et puis voilà, ben c'est arrivé. Mais il n'y est pour rien. Voilà. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse. Le chaman a joué un rôle direct dans la disparition de Nora. En effet, je me suis rendu compte que les affaires d'agression sexuelle par des bomos défraient parfois la chronique en Malaisie et en Indonésie. Il y a un fait divers un peu sordide qui a retenu mon attention d'ailleurs. En 2003, une fillette de 12 ans nommée Asmi avait mystérieusement disparu dans un village de Sulawesi centrale en Indonésie. En réalité, elle avait été enlevée par un sorcier médium qui l'a retenue prisonnière à l'intérieur d'une crevasse rocheuse cachée dans la jungle. Ça s'est passé près du village de Bajugan. En fait, il prétendait être possédé par un djinn qui était l'esprit d'un jeune garçon. C'est ce qui lui faisait croire. Donc le calvaire de la jeune fille Asmi a pris fin seulement en 2018, à l'âge de 28 ans. Donc à travers cet exemple, on voit donc que les bomos ne sont pas tous bienveillants, et certains sont capables du pire. C'est inhérent à la nature humaine. Alors maintenant, on va revenir au cas de Nora. On va étudier ce scénario. Imaginons que ce chaman, le chaman de Khalid Mohammed, soit coupable. Reste à savoir comment il a fait pour kidnapper l'enfant quand même, hein. C'est une grosse partie du mystère. Bon, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas 36 solutions. Si personne ne s'est introduit dans le bungalow, vu qu'il n'y avait pas de signe d'intrusion, il faut se demander si Nora n'aurait pas été attirée à l'extérieur, en dehors du bungalow, par le chaman ou quelqu'un d'autre. On peut tout imaginer. On peut même se demander s'il n'aurait pas utilisé un enfant, par exemple. Une fois Nora dehors, le chaman l'attrape et il l'emmène ailleurs. Il l'enferme quelque part, dans une cave, dans une cabane, dans la jungle. Donc ce chaman qui est vraiment qui est un esprit déviant, on va dire, il a des mauvaises intentions à l'égard de Nora. Mais là, le problème, c'est que l'affaire commence à être énormément médiatisée. Il y a une opération de recherche massive dans la région avec l'armée. Et là, il prend peur. Donc, il est obligé de changer de plan. Peut-être qu'il n'ose pas retourner à l'endroit où il a enfermé l'enfant. Et Nora reste enfermée comme ça, prisonnière pendant une semaine. Elle n'est pas nourrie. Et elle meurt de faim. Elle meurt de faim et de stress aussi, parce que être enfermé comme ça, c'est terrible. Et ce qui me fait penser à ce scénario, c'est l'affaire Marc Dutroux, le sinistre criminel belge qu'on ne présente plus. Parce que deux des petites victimes de Marc Dutroux, Julie et Mélissa, elles étaient mortes de faim aussi. Elles étaient mortes de faim et de soif dans une cache, laissée par Marc Dutroux. Donc le chaman, il n'ose pas retourner à l'endroit où il a enfermé Nora, par peur. Mais quand la police lui demande d'aider les recherches, bah pour lui c'est une occasion en or, une occasion de s'en sortir. Donc le lundi 12 août, bah, il explique donc qu'il est rentré en contact avec un génie, bien entendu c'est une pure invention, et qu'il va demander à ce génie de ramener l'enfant, de relâcher l'enfant. Et il en profite pour ramener la dépouille de Nora durant la nuit du lundi au mardi. Comme ça, on la retrouve le mardi 13, le lendemain de sa prédiction. Donc ça, c'était la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse maintenant. Dans cette hypothèse, le chaman n'est pas le responsable direct de l'enlèvement de Nora. Par contre, il connaît le ou les coupables, une ou plusieurs personnes de la région appartenant possiblement à un réseau pédocriminel, par exemple. Donc il est leur complice et il les aide à se débarrasser du corps de Nora. Donc son annonce, encore une fois, est une pure mise en scène. Quatrième hypothèse, l'hypothèse surnaturelle. On va maintenant étudier la théorie paranormale. Voilà, on est au stade théorique, hein, mais il faut quand même développer cette thèse pour être vraiment complet. Donc dans ce cas de figure, le chaman est parfaitement innocent et de bonne foi. Donc c'est un brave homme, il a vraiment un don, et il est vraiment rentré en contact avec un djinn. Ne me demandez pas de vous expliquer comment certaines choses échappent à l'entendement, mais il réussit à communiquer avec une entité qui n'appartient pas à notre réalité. Et cet esprit, donc ce génie, ce djinn lui dit qu'il détient Nora. Dans d'autres vidéos, j'ai parlé d'hypothétiques enlèvements paranormaux en Malaisie, parce que là-bas, il y a vraiment des gens qui disparaissent de façon très mystérieuse. Là-bas, ce sont des croyances locales très très fortes. Et moi, ça m'intéresse beaucoup et j'étudie sérieusement le sujet. Pour revenir à Nora, effectivement, le chaman a raison. Nora a été enlevée par ce génie. Elle est effectivement ailleurs, dans une autre dimension, dans un monde éthéré, parallèle au nôtre. Et là, le chaman commence à négocier avec l'esprit pour récupérer Nora. Rappelez-vous de ses paroles. Il avait dit, ce soir, je vais demander à l'esprit de la ramener de là où elle vient. Il va vouloir quelque chose en échange. Cela restera entre lui et moi. Le plus important, c'est que l'enfant soit libéré. Donc il y a bien une négociation, il y a un dialogue entre eux. On ne sait pas trop ce qui se dit entre le chaman et le génie, mais Nora sera effectivement rendue le lendemain. Malheureusement, elle est décédée. Là, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas, je spécule, mais bon, essayez de comprendre. Soit le génie n'a pas pensé à nourrir Nora dans l'autre monde, soit elle n'a pas supporté le trajet retour d'un monde à l'autre, ou alors. Peut-être que le chaman n'a pas honoré sa promesse. Peut-être qu'il n'a rien donné en échange au génie. Ou alors, peut-être que ce qu'il lui a donné ne lui convenait pas. Peut-être qu'il n'a pas donné au génie ce qu'il réclamait. Donc là, encore une fois, on est dans la théorie pure, on est dans la spéculation, mais c'est intéressant quand même, c'est intéressant, je trouve, d'étudier cette piste. De faire cette vidéo complémentaire à mes émissions précédentes sur Nora Quarin, je pense que qu'il soit coupable ou non, qu'il soit coupable ou innocent, cet homme, ce chaman, Khalid Mohammed, en sait peut-être plus qu'il ne le dit sur les circonstances exactes de la disparition de Nora. Et puis, ça serait intéressant que si des policiers français, des enquêteurs vont là-bas, qu'ils puissent l'interroger, qu'ils puissent aussi s'expliquer, qu'ils puissent en dire plus sur son interaction aussi avec cette entité, même si ça n'est qu'une pure coïncidence que la petite Nora ait été retrouvée le lendemain de sa prédiction. Voilà. Pour conclure, je réitère mon soutien à la famille de Nora Quarin. Méab, Sébastien, au grand-père. Je suis de tout cœur avec eux. J'essaie toujours d'être honnête, franc, et c'est vrai que ça et là, on lit parfois quelques personnes qui évoquent la piste familiale. Donc moi, j'ai été très clair à ce sujet-là. J'ai toujours dit que pour moi, il ne faisait aucun doute que les parents de Nora étaient innocents. Ils n'ont rien à se reprocher dans cette histoire. Mais bon, c'est vrai qu'il faut être objectif. C'est vrai, dans les cas de disparition d'enfants inexpliqués, on peut comprendre que cela soulève des interrogations. Les statistiques officielles montrent que 40% des violences sont commises à l'intérieur du foyer et des familles. Et les enfants ne sont pas épargnés. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun doute sur l'innocence des proches de Nora, de ses parents, pour deux catégories de raisons. Et je profite de cette vidéo pour livrer mes arguments. J'ai d'abord des raisons subjectives. J'ai l'intime conviction et l'intuition que les parents de Nora sont sincères. Ils adoraient leur fille, c'est évident, et ils ont eu un comportement aussi tout à fait cohérent du début à la fin dans cette affaire. Par exemple, ils ont signalé très vite la disparition de leur fille. Et c'est eux aussi qui ont évoqué en premier la piste criminelle, envers et contre tous. Tout le monde optait pour la piste accidentelle. Je pense que s'ils avaient été coupables d'un homicide, ils se seraient sûrement contentés d'appuyer la thèse de l'accident, hein. Au contraire, ils ont porté plainte contre X pour demander l'ouverture d'une enquête, très vite. Et ils continuent à l'heure actuelle, hein. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien, une culpabilité des parents dans cette affaire, elle est quasiment impossible, matériellement. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Étudions le scénario d'une mort dans le milieu familial, pour mieux démontrer son absurdité. Parce que certains ont dit, oui, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'ils ont maquillé sa mort en accident, enfin bref. Je vais vous prouver que c'est complètement absurde. Donc écartons déjà l'homicide volontaire. C'est inimaginable. Les Coirin adoraient leur fille, ils n'auraient jamais levé la main sur elle. Et en plus, on va voir par la suite, de toute façon, d'un point de vue logistique, c'était pas possible. C'était pas possible de cacher son corps et de s'en débarrasser une semaine plus tard. Donc, quid de l'homicide involontaire? Alors, imaginons le scénario d'une mort accidentelle. Imaginons que Nora soit morte dans la nuit du 3 au 4 août, dans le bungalow, à cause d'un accident causé par l'un des membres de sa famille. Pris de panique, les parents auraient décidé de maquiller sa mort en disparition le dimanche matin. Mais bon, on va arrêter tout de suite. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que cette théorie est complètement irrecevable pour une raison simple, c'est que Nora est décédée 6 jours plus tard. Et cette théorie ne tient vraiment pas la route parce que d'un point de vue matériel, elle est impossible. Les parents n'avaient pas les moyens logistiques de garder leur fille quelque part pendant une semaine dans un lieu tenu secret. Ils n'avaient pas non plus la possibilité de mettre en scène sa réapparition. Ils étaient H24 sous les yeux de la police, sous le feu des projecteurs, avec toute la presse. Comment est-ce qu'ils auraient fait pour transporter le corps jusqu'à la cascade? Et la jungle était remplie de centaines de témoins potentiels. Et puis surtout, la police malaisienne n'a jamais évoqué la piste familiale, pas plus que la presse britannique, qui est vraiment virulente. Donc voilà, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. J'en profite donc encore une fois pour souhaiter bon courage à la famille Coirin, et j'espère de tout cœur qu'ils obtiendront toutes les réponses qu'ils attendent. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo complémentaire sur l'affaire Nora Coirin. C'était important d'évoquer cette piste du chaman. Maintenant, je vais en profiter pour vous donner quelques petites news et informations. Alors, première chose, je vais vous faire maintenant une petite confidence. Certains parfois me disent, tu devrais arrêter de parler de théorie paranormale parce que ça nuit à ta crédibilité. Tu toucherais plus de monde, tu aurais plus de public si tu arrêtais d'en parler. Mais ça n'est pas une question de crédibilité, là. Pour moi, c'est une question d'authenticité et d'honnêteté intellectuelle. Lors de mes recherches, je constate parfois des faits étranges et inexpliqués. Donc je m'interroge sur ces sujets, sur ces mystères, en tant qu'esprit libre. J'essaie de le faire de façon objective. Je le dis souvent, ce n'est pas parce que qu'on ne comprend pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Je n'ai pas d'avis tranché sur ces questions. Je n'ai pas plus de réponses que vous. Je ne prétends jamais détenir la vérité, mais je trouve ces sujets fascinants. Ça me passionne d'y réfléchir, ça me passionne de me poser des questions, ça me passionne d'en parler. De temps en temps, évidemment. Et puis quand les dossiers s'y prêtent, quand il y a une affaire qui a aucun gramme de paranormal dedans, je vais pas aller en inventer. En tout cas, quand j'essaie de le faire, je le fais de la façon la plus pédagogique et objective possible. Je ne vais pas m'interdire de parler de ces sujets quand j'en ai envie. Je ne vais pas faire ça pour plaire à plus de monde, pour avoir plus de public, parce que dans ce cas, je me renierai moi-même. Je ne serai plus moi-même, tout simplement. Voilà, c'est dit. Je pense que c'est important aussi de dire les choses. Deuxième chose, plus terre à terre, mais bon. Je reviens bientôt sur Nura TV, le jeudi 19 mars 2019, donc pour une émission spéciale disparition mystérieuse avec Guillaume. Le sujet vous sera communiqué plus tard. Ça, c'est pour éviter de se le faire piquer avant. Voilà. Troisième chose, je viens de rénover mon site internet. Donc vous trouverez l'adresse de ce site dans la description de cette vidéo. Donc sur mon site, vous trouverez toutes mes vidéos, mes livres, mes podcasts, en fait tout mon travail. Et vous pourrez aussi suivre tout mon parcours depuis 2013, quand j'ai sorti mon premier roman, Passager vers l'enfer. Et il y a aussi une nouveauté, une petite boutique dans laquelle vous pouvez acheter maintenant des t-shirts et des mugs. Ils sont assez sympas, je vous invite à aller voir, vous trouverez peut-être votre bonheur, voilà. En tout cas, allez-y là, assez vite, parce que pendant 15 jours, vous avez droit à 15% de réduction. Voilà, donc il faut en profiter. Et puis c'est aussi un moyen de soutenir mon travail.
Ha pasado el tiempo y no te tengo, pero ya sé que soy así. Cuando más tú amas, fina tú pierdes tiempo. Y mami, tú tienes que cambiar esa actitud, diciendo que malo aquí soy yo.
Ha pasado el tiempo y no te tengo.